Un été à soi avec Promotion Santé Suisse et santépsy.ch unis pour promouvoir votre santé mentale. Un été à soi. Jonas Schneider.
Et vous, vous sentez-vous seul ou recherchez-vous la solitude dans un été à soi tout seul ? Cet été sur la première, nous explorons notre santé mentale et donc aujourd'hui la thématique de la solitude qui s'y trouve au cœur. Et c'est votre rôle de la définir, Sophie Vasutine. Bonjour.
Bonjour. La solitude, alors véritable phénomène de société qui touche autant les plus jeunes que les moins jeunes, le mal du siècle comme on l'appelle aussi, se vit en Suisse comme dans d'autres pays de plus en plus difficilement. 38% de la population âgée de 15 ans ou plus se sent seule. C'est le résultat de l'enquête réalisée par l'EFS en 2017. Dans une société hyper connectée où nous n'avons jamais eu autant de moyens pour communiquer, pour nous déplacer, pour nous rassembler, d'autres facteurs comme le vieillissement de la population, les périodes de chômage, de célibat ou de mise en couple qui ne riment plus forcément avec ménage en commun, le sentiment de solitude augmente et serait de plus en plus difficile à vivre. Cerise sur le gâteau, certaines formes de solitude sont mal vues par la société, celles qui valorisent encore les agendas bien remplis, un réseau bien développé, ceci en ayant une vie de famille épanouie. Du côté des représentations de la solitude les plus caricaturales fournies par le grand écran, nous avons en tête de liste celle de l'aventurier ou de l'explorateur qui n'ont pas besoin de plus d'interactions sociales que ça pour exister. Souvenez-vous, avant Koh-Lanta et les apprentis aventuriers, il y avait Tom Hanks dans Seul au monde face à sa terrible solitude sur une île déserte. Sept ans plus tard, dans Into the Wild, Christopher, 22 ans et promis un brillant avenir, plaque tout et se met en marge de la société pour vivre sa grande aventure en Alaska. Loin de tout et surtout des autres, il part à la recherche du bonheur à travers l'indépendance et la solitude.
Je veux me perdre au fin fond de la nature.
La vie sauvage.
Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi, dis-moi, on fait quoi loin de tout?
On vit tout simplement.
Rappelons tout de même que pendant que ces messieurs partaient à la recherche de leur moi profond à travers vents et marées, notre figure à nous, c'était encore Bridget Jones, pot de glace et verre de vin à la main qui partait à la recherche du meilleur fiancé. Depuis, les représentations des femmes et du sentiment de solitude ont évolué. D'autres femmes partent à l'aventure, comme dans le film Land Wild. Vous connaissez ? Bah non, pas moi non plus. De l'autre côté, plus du côté des magazines de bien-être et de développement personnel quand même, on apprend que la solitude, si elle est voulue, choisie, est un besoin qui permet de se ressourcer soi-même. Alors, parmi toutes ces formes de solitude, y a-t-il vraiment de bonnes ou de mauvaises façons ou raisons d'être seul ? Ne serait-on pas en train de créer ce que j'appellerais un petit peu une forme de solitude saupoudrée ? Apparemment, la solitude, il en faudrait un peu, mais pas trop, de temps en temps, mais pas tout le temps, pour les bonnes raisons, mais pas seulement. J'avoue que mon animal social est un peu perdu et que je ne sais plus trop quoi emporter sur mon île déserte.
Merci Sophie Vasutine. Et bonjour Marie-Noëlle Scourmans.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur honoraire à l'Université de Genève. Vous avez précisément étudié et publié sur la solitude ou les solitudes. C'est le titre de votre livre publié aux presses universitaires de France. On va écouter un reportage ensemble qu'on commentera et on s'intéressera justement à cette solitude qui peut, on l'a bien compris, être soit subie, soit recherchée. Alors là, on va rencontrer un ancien ermite neuchâtelois qui, tout récemment, est revenu à la civilisation. C'est un reportage de Samuel Soquet qui nous emmène dans les bois. Emmanuel Dupaquet, bonjour.
Bonjour, bonjour Samuel.
On se trouve chez vous à Concise, mais vous n'avez pas toujours vécu ici dans le village. Vous avez passé une période où vous avez vécu seul. Racontez-nous ça.
J'ai effectivement habité pendant quasi 20 ans à un endroit qui s'appelle le lieu dit Pierre Gelé, qui est en plein milieu de la forêt, qui a une petite, toute petite clairière au milieu de la forêt, au-dessus de Peuzeux.
Mais c'est dans le canton de Neuchâtel.
C'est dans le canton de Neuchâtel, ouais. Il y a Cérouux qui est sur le sommet de la montagne, on va dire, avant le Val de Rue. Et là, au milieu, mais il y a une ou deux petites clairières, mais il y en a une particulière avec une espèce de vieille petite fermette. En 20 ans, j'ai pu voir ces arbres qui étaient déjà assez grands quand je suis arrivé, mais encore grandir, encore grandir, et la clairière devenir de plus en plus petite et profonde dans la forêt. Ouais.
Qu'est-ce qui vous avait amené à vous isoler dans une clairière comme ça ?
Alors bon, c'est à la fois un concours de circonstances, puis à la fois un destin un peu achevé quand même, parce que donc j'ai habité avant ça pendant 3 ans. sur la colline du Tertre, avant qu'elle soit bâtie avec des immeubles. Et c'était un terrain vague, où un immeuble avait été démoli, puis une villa. Et j'avais posé là une grande tente qui faisait à peu près 10 mètres de diamètre, quoi. Tout en récup. Et comme je m'occupais de la case à choc, et puis que c'était très pénible, et puis qu'on n'était pas assez écolo, et puis que j'ai été un peu révolté, puis je trouvais qu'on écrasait le monde, et ben je me suis mis à habiter sous tente, en marchant pieds nus, puis tout en m'occupant quand même encore de la case à choc, puis on a soudé deux, trois trucs encore.
C'est une salle de concert de Neuchâtel.
Ouais, c'est la salle de concert de Neuchâtel, ouais.
Donc là, vous quittez un squat dans un terrain vague et vous allez dans une forêt. Une forêt, du coup, où vous n'avez pas de voisins, où vous êtes seul dans cette clairière.
Ouais, tout seul, effectivement sans électricité, avec l'eau à la pompe. Il y avait un peu de puits de surface, puis il fallait pomper comme ça. Et puis c'était une vieille ferme pas isolée, pas... C'était vraiment ouais, des conditions assez rudes, mais en fait très sympathiques, parce qu'effectivement... en pleine nature, et c'était assez bien par rapport à ma petite crise existentielle qu'on peut avoir, hein, de se retrouver comme ça un peu en dehors de tout, même que c'était une drôle d'histoire pour moi, de se retrouver en dehors de tout, après avoir œuvré à la case à choc, fait du rock'n'roll, du jazz, de la musique, et puis être entouré de beaucoup beaucoup de gens.
Cette solitude que vous avez vécue là-haut, c'était vraiment un choix en vous disant « bon, maintenant je passe à autre chose » ou ça s'est trouvé comme ça puis vous êtes adapté ?
Non, là, il y a une espèce d'évidence du fait que je défendais en fait la nature et le sauvage, et puis pour moi c'était plutôt formidable de se retrouver là, quoi. C'était pas une punition, en fait. Même que je me souviens, j'étais arrivé là-haut et j'avais dit à un fermier à qui je voulais acheter de la paille pour mettre de la paille pour isoler, hein, c'est un bon vieux truc, quoi. Et je lui ai dit, j'ai la chance d'habiter à Pierre-Gelée, puis il m'a dit, vous trouvez que c'est une chance, ça?
Comment s'était perçu ce changement, puisque vous étiez dans un mode de vie que vous décrivez comme très sociable, avec beaucoup de relations, le monde de la musique, et puis tout d'un coup de vous retrouver seul, loin de tout ça, comment votre environnement a perçu ce départ ?
C'est quelque chose qui était accepté très bien. Comme je suis un peu barbu, je passais tout de suite pour, alors que je suis pas, mais je passais pour l'ermite, là, un peu là-haut, hein. Puis après, comme je passais à travers le Peseux ou la ville, les gens me connaissaient comme l'ermite de Pierre-Gelée, quoi, un peu, quoi. Alors qu'en fait, je suis pas un véritable ermite. L'autre prof de théologie m'a dit non, mais vous êtes un anachorète. C'est quelqu'un qui a une certaine ascèse, mais qui quand même vit avec la société, quoi.
Comment ça se passait là? Racontez-nous votre quotidien. Vous aviez encore une activité qui vous faisait sortir de votre ermitage, qui vous faisait quitter la forêt pour voir des gens, ou vous aviez vraiment une vie recluse comme ça?
À un moment, je m'étais tellement marginalisé quand j'étais sous tente pieds nus que, en fait, j'ai remarqué que je commençais à perdre pied, et puis que, à la limite, on me proposait plus de boulot. Et puis je me suis quand même pas dit, maintenant je vais faire du potager, puis je vais vivre que de moi-même. Je pense pas que ce soit le chemin de la totale autonomie, la bonne façon de faire. Donc effectivement, je me suis dit, non, maintenant il faut que je reprenne pied avec la société, puis que je revoie plus de gens, ouais, c'est sûr.
Pendant 20 ans, vous avez vécu dans cette forêt, vous avez évoqué une crise existentielle. Est-ce que vous diriez que les 20 ans de vie, ça vous a guéri de cette crise, ça vous a fait sortir de cette crise ?
Bon, il y avait ma crise, effectivement, de vie avec cette histoire d'enfant. Mais bon, celle-là, elle s'est résolue assez gentiment, petit à petit. j'allais un peu tous les 6 mois, puis après on a c'est quand même entendu sur un mode une façon de faire, surtout qu'elle l'avait fait reconnaître par quelqu'un d'autre, et puis alors donc elle avait un peu deux papas, mais en fait bon maintenant cette fille elle a 23 ans puis elle se porte très très bien. Puis cette mère a été très brave, enfin elle était très volontaire, et puis elle a, elle a empoigné tout ça tout à fait bien, je trouve, par ça, je veux dire.
Est-ce que vous auriez eu envie d'une vie de famille plutôt que d'une vie de reclus ?
Non, mais ça, j'ai pas tellement regretté. Non, je peux pas dire ça. Parce que justement, si je me suis mis à être reclus, c'est parce que je suis un type quand même avec beaucoup de contestations, beaucoup de débats en moi. Et je vois que dans un pays comme celui-là, ben, j'ai pas, à part justement quand je me suis retrouvé avec des squatteurs, j'ai pas vraiment trouvé, de quoi constituer une famille, dans ce style-là, quoi. Puis peut-être que je suis quelqu'un d'assez, peut-être justement un peu solitaire, un peu, qui s'occupe surtout de sa poire, peut-être un peu trop égocentrique, je sais pas. Même que ma réflexion, elle est tout le temps, vers l'extérieur, beaucoup, hein, plus que sur moi-même.
C'est vraiment l'exemple de la solitude choisie, mais qu'on peut rompre quand on a envie, quoi.
Il y a un certain confort, quoi. Mais il y a cette part de solitude qu'on protège, et puis quand on revient dans cette clairière, et puis on est heureux, puis on se dit, effectivement, c'est un peu mon refuge. I see right through when
you're blowing that smoke. Un reportage de Samuel Soquet auprès de Emmanuel Dupaquet que l'on entendait. Et on vous retrouve, Marie-Noëlle Scurman, sociologue, professeure honoraire à l'Université de Genève, vous qui avez beaucoup étudié et publié sur la solitude. Ça vous parle, ce témoignage de... On l'a présenté comme un ermite, on a compris que c'était pas tout à fait un ermite, mais en tout cas, il a vécu seul dans les bois pendant 20 ans.
Bien sûr, ça me parle à la fois. C'est une figure, effectivement, de l'Anachorète, toute l'ermite, hein, des personnages qui ont toujours existé, enfin, en tout cas, depuis des siècles. C'est aussi le prototype de ce que vous avez, donc, dans le reportage, introduit, l'idée de choix. Mmh. Hein, l'idée de choix qui n'est pas si simple non plus, puisque les gens qui racontent les expériences de solitude racontent aussi les ressources qu'ils ont découvertes, la façon dont ils ont appris, dont ils se sont dotés d'habiletés qu'ils ne connaissaient pas et habiletés auxquelles ils peuvent refaire recours dans d'autres périodes de leur vie.
Là, on a quand même l'exemple extrême de la solitude entre ça et la personne qui va à la poste à 14h et qui a rendez-vous à 15h et qui se dit entre 14h et 15h, je me laisse une heure de solitude. C'est aussi a priori de la solitude et là, on est dans un exemple beaucoup plus quotidien. À partir de quand on peut parler de solitude ? Si je suis seul 5 minutes dans ma voiture, est-ce que je suis seul ?
C'est une très bonne question parce que c'est évidemment par ça qu'on avait commencé quand on a réalisé avec mes étudiants une recherche sur 4 ans qui a rassemblé 331 récits d'expériences solitaires. Mmh. Et la question était, mais à partir de quoi ? Mmh. Et on s'est dit, mais enfin, c'est quand ce mot « je traverse une expérience de solitude » ou « je me sens seul » ou « je vais vers la solitude », le mot « solitude » fait sens pour celui auxquels on s'adresse. Alors, il y a des gens qui, bien sûr, quand on leur dit « mais est-ce que ça fait sens pour vous ?» ils disent « oui, bien sûr, hein, je vis seul, etc. » Mais aller chez ma voisine qui est, elle, à la retraite, ses enfants sont partis, elle a perdu son mari, et elle va vous donner, entre guillemets, un bon récit de solitude. Moi, je n'en souffre pas. C'est arrivé auprès de nos interlocuteurs, ils disent « moi, je n'en souffre pas, donc ce n'est pas une solitude. » Donc, vous voyez, quand on leur dit « mais si ce mot fait sens pour vous, toutes les expériences sont importantes pour vous, pour nous, que votre expérience soit positive, négative, voire indifférente. »
Y compris une solitude de centre-ville, parce que là on avait la solitude de forêt, mais la solitude de centre-ville, c'est-à-dire une solitude mentale, mais pas du tout une solitude physique, une solitude entourée finalement, qui existe aussi.
Ah, bien sûr, mais si vous êtes seul dans votre appartement et que la ville bouge tout autour de vous, que les gens ont l'heure de s'amuser, vous pouvez aussi vous sentir complètement décalé par rapport à cet environnement bruyant et animé. Donc c'est vraiment plutôt relatif à une relation par rapport à son environnement et c'est aussi complètement relatif à une personnalité. Par exemple, ce qui est très très important, c'est que la solitude est une énigme. Par exemple, enfin, j'entends par là que des personnes qui sont objectivement très seules n'en souffrent pas. Et d'autres personnes qui objectivement sont très entourées, hein, mari, enfant, parents, boulot, etc., disent au contraire, finissent par avouer se sentir extrêmement seules.
Ça veut dire quoi ça ? Quand on est très entouré et qu'on se sent seul ?
Et c'est ça qui a été vraiment un des mystères qui nous a beaucoup occupés pendant la recherche, hein. C'est que ces personnes qui ont fini par oser raconter, hein, et exprimer ce sentiment-là, parce que bien sûr elles n'osaient pas l'exprimer vu que les gens allaient leur dire mais toi seule c'est pas possible, enfin tu as ceci cela. Et je pense que la clé de cette situation étonnante, c'est un déséquilibre dans l'échange. C'est souvent des femmes d'ailleurs, hein. Et quand elles ont tout à coup l'impression de donner, hein, professionnellement, par des professions de service, ou à leurs enfants, à leur mari, ceci, cela, à leurs vieux parents. Et puis tout d'un coup, elles se disent, mais moi, où est ma ressource? Qu'est-ce que j'ai en sens inverse? À ce moment-là, il y a un diagnostic de solitude qui souvent se livre très difficilement parce que l'entourage n'y croit pas, ou l'entourage trouve ça bizarre, ou encore négatif, la personne est qualifiée de dépressive. Donc voilà, pour répondre à cette question d'énigme.
La place du numérique dans la solitude, est-ce que le numérique rend seul davantage? Est-ce que c'est juste un amplificateur de choses qui existaient déjà avant?
Écoutez, ça, je n'en sais rien. Vraiment, je ne pense pas que ça va. C'était intéressant dans l'introduction de votre émission. Vous parliez, hein, ce qui est très souvent mentionné, hein, c'est la solitude, c'est le mal du siècle. La solitude, il y a 38%, disait
37%. 38%. Non, vous avez raison. 2017, 38%.
Oui. 38% de gens de plus de 15 ans qui se disent seuls, c'est un piège. Parce que quand on dit qu'on se sent seul, ben on ne dit rien de son sentiment négatif ou positif, voire, comme vous le disiez aussi en introduction, d'une alternance de moments positifs et négatifs. Donc on sait que 38% de la population disent que pendant longtemps ou par moment, hein, ils ont ressenti cette solitude. Mais on ne connaît rien de leur façon de le vivre, ni de leur histoire.
Mais vous pensez pas que quelqu'un qui dit « je me sens seul » est quelqu'un simplement qui vit mal cette solitude? Peut-être que la personne qui était interviewée dans les bois, on lui aurait demandé « est-ce que vous vous sentez seul ?» Je ne sais pas si l'Office fédéral de la statistique l'a appelé, mais peut-être qu'il aurait répondu non.
Il faut voir vraiment comment la question a été tournée dans ce chiffre statistique auquel je ne donne pas plus d'importance que ça. Mais il y a un autre élément, hein, il y a qu'on dit c'est un mal de société. Ça revient aussi à votre question sur l'actualité du numérique, il y avait donc pas avant. C'est comparativement à quand, comparativement à quoi? Hein, parce que effectivement, hein, dans l'histoire, autrefois la solitude c'était quelque chose d'absolument anormal. C'est-à-dire que les gens vivaient de façon très très resserrée, tous ensemble, générations confondues, hein, dormaient dans le même lit, etc., etc. Et quand il y avait solitude, c'est qu'il y avait un événement tout à fait catastrophique, soit un exil, un bannissement, soit des guerres, des pertes, hein, des phénomènes naturels. Donc ça, c'était la solitude était une terreur. Mais petit à petit, pendant l'histoire, à la Renaissance notamment, la solitude s'est d'une certaine manière installée petit à petit comme une autorisation de pouvoir faire autre chose que d'être tout le temps pris par les autres, et est devenue au XVIIIe siècle comme un luxe. Donc le fait d'avoir... Alors, quand on dit hein, c'est le mal du siècle, moi je sais pas par rapport à quoi on compare. On va pas faire une longue discussion historique, mais voilà. Alors vous parliez aussi de saupoudrage. Un petit moment avec, un petit moment sans, un petit moment, voilà, vous allez à la poste, vous allez vous
asseoir sur un banc. La solitude light, pouvoir bénéficier de la solitude et en même temps de la communauté, un mélange des deux.
Oui, mais c'est bien sûr ce qu'on appelle un équilibre aussi entre les moments où on donne, où on est pris, où on est engagé, et les moments où on se replie, on se ressource, bien sûr. Mais ça n'explique pas l'autre élément de l'énigme, hein. C'est-à-dire il y a des gens qui se précipitent chez eux en quittant leur boulot, qui ferment la porte et sont enfin seuls et enfin heureux. Et tous ces gens-là disent qu'ils sont d'une nature solitaire. Mmh. Ils revendiquent cette nature solitaire et souvent ils la revendiquent en disant « ça date de mon enfance, je suis fait comme ça, mes parents ont tout essayé pour m'envoyer chez les scouts, m'envoyer dans des colonies de vacances, etc. Mmh. pour casser. » Et voilà, je me suis enfin autorisée. Et ces personnes-là ont aussi souvent, par rapport à leur environnement externe, un diagnostic quasi pathologique. Les gens disent que ce sont des misanthropes. Mmh. Des gens qui aiment pas les autres, ou qui sont connotés. La femme qui se sent seule en étant entourée, on la taxe de dépressive. Celui qui adore être seul, qui ferme sa porte et veut voir personne et se rend obligé d'aller travailler et puis, bon, enfin seul. Celui-là, on le taxe de misanthrope. Donc voilà, c'est des équilibres relatifs à chaque histoire.
La solitude peut faire souffrir. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut apprendre à aimer la solitude ou est-ce qu'il faut forcément sortir de cette solitude si elle nous fait souffrir ?
Eh bien, quand vous dites sortir de cette solitude, à travers cette expression, on peut entendre, en tout cas moi je peux entendre, qu'on considère la solitude comme un état. Mm-hmm. Comme on est dedans ou on n'est pas dedans. Alors, je trouve que c'est formidable, si vous voulez, déjà de poser la question choisie ou imposer, hein, comme vous l'avez dit avec d'autres mots,
subi
ou recherché, peu importe, c'est déjà un pas. Parce que l'étape avant, elle est bien pire, parce que c'est vraiment considérer la solitude comme, par définition, quelque chose d'effrayant et douloureux. Hein. Donc quand on dit non, il y a choisi et non choisi, c'est évidemment, mais malgré tout, c'est encore une simplification, parce que c'est quand même très noir-blanc. Mmh. Et on va dire, ben voilà, entre ce noir et ce blanc, il y a toutes sortes de nuances, il y a toutes sortes de tonalités, mais ces tonalités, c'est déjà encore un pas de les voir, ces tonalités, un peu plus gris, un peu plus clair, un peu plus foncé. Ok. Mais ce qui est important, c'est surtout de se dire que la solitude n'est pas un état, elle est une histoire. Il vous arrive quelque chose, puis vous allez peut-être en souffrir énormément si vous perdez quelqu'un, par exemple. Hein, toutes vos pratiques sont chamboulées, toutes vos habitudes sont à redéfinir. C'est évidemment le cas où la souffrance domine, mais vous allez traverser une histoire. Mmh. Et donc, moi, je lutte un peu contre la solitude comme état, on n'y est pas, pour aller vers l'idée que la solitude est une épreuve à traverser, est une histoire à vivre.
Et si elle est vécue comme un problème, il faudrait qu'on puisse trouver des solutions pour les gens qui souffrent de solitude. Est-ce que la communauté, la ville, le pays peut faire quelque chose contre la solitude et qu'est-ce qui peut être fait ?
Le pays, comme vous dites, ou la collectivité autour des gens, je pense que la première chose à faire, c'est de s'ouvrir à l'idée que la solitude est une histoire et pas un état. Hein, parce que tant que le regard sur la solitude, hein, qui est projeté par les autres sur une personne qu'on voit seule, sans se demander si elle en souffre ou si elle n'en souffre pas, quand on la voit seule, beaucoup de, hein, par exemple, dans les personnes qui, chez les personnes âgées, par exemple, on a cette définition, cette personne doit en souffrir. Mmh. Et donc, il faut
aller sauver tous les seuls.
Voilà. Oui. Il faut qu'on fasse quelque chose et on va organiser, on va remplir leur temps, etc. Et souvent, bah, voilà, les gens disent, bon, vous êtes sympa, mais laissez-moi un peu tranquille aussi. Donc, il faut vraiment, je pense que ce qu'il faut comme ressources, comme chose, entre guillemets, pour aider, parce que je ne veux pas minimiser les cas où la solitude est une souffrance violente et douloureuse. Hein. Bien sûr que ça existe, il ne faudrait pas donc renverser les choses, mais il faut d'abord savoir quelle est l'histoire de la personne, où elle en est, est-ce que ça vient de se passer, est-ce que ça dure depuis longtemps, est-ce que c'est venu de façon brutale, ou est-ce qu'au contraire ça s'est mis progressivement, est-ce que pour finir elle y trouve quelque chose d'intéressant et de doux et de ressourçant, ou au contraire est-ce que le manque domine, ça peut arriver. Et donc à partir de la compréhension de ce que vit chacun, on a à ce moment-là beaucoup plus de chances d'être adéquat dans son action.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Eh bien, voilà.
Si on stigmatise pas, etc. D'accord, ouais. Mais on identifie quand même des gens qui souffrent de cette solitude et qu'il faudrait aider ou qui devraient s'aider elles-mêmes. Qu'est-ce qui peut être fait pour faire sortir ces gens de cette solitude?
Bah, encore
je
une
sais
fois,
que vous n'aimez pas sortir de la solitude, mais il faut bien utiliser des mots à un moment pour le dire.
Non, mais j'ai pas dit que moi, si vous me poussez jusque là, je dirais que moi j'essaie de doser les choses pour ma vie personnelle. Donc je ne vais pas m'enfermer dans la solitude, c'est évident. Mais je pense vraiment que ce qu'on doit faire, c'est comprendre. Donc je reviens à ça. C'est pas c'est comprendre et ne pas imposer. Donc aller dans l'histoire de la personne. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas les apporter nécessairement de l'extérieur. Mais je pense que le fait de discuter, de parler, de raconter à une personne, disons qu'une personne souffre de la solitude, et à partir du moment où on peut, j'ai souvent voulu faire des séminaires comme ça, à partir du moment où on dit voilà, cette personne, c'est une solitude du manque, ça s'est installé brutalement, elle en est plutôt au début. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut organiser avec elle, partager avec elle des récits avec d'autres, des récits d'expériences qui sont similaires sur leur déclenchement, par exemple, mais qui sont saisies à des moments différents de l'histoire, et de lui faire comprendre, en fait, c'est vrai, je ne suis pas enfermée dans un état, cette autre personne dont j'entends le récit personnel, le récit propre, eh bien, elle a eu les expériences, les ressentiments, hein, la façon de ressentir les choses que j'ai eues, et voilà ce qu'elle a trouvé. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une potentialité de trouver quelque chose. Je donne un exemple. Énormément de gens racontent qu'à travers l'histoire, hein, même si le début était douloureux, ils ont appris quelque chose d'eux-mêmes, ils sont devenus plus sensibles, ils ont appris une part de leur intériorité, ils ont appris à une expression que je trouve très belle, la capacité de descendre en soi et de remonter. Alors, on a parlé de la ressource de la nature. Il y a parfois aussi ce que j'ai appelé la solitude outil. Alors, c'est très bizarre, mais c'est l'accentuation de la solitude. Quand des gens sont, par exemple, en pleine situation de manque, hein, de souffrance, de l'absence, de soi. À certains moments, si vous êtes au sein d'une ville, justement, vous entendez tout le bruit, vous voyez tous les gens, on l'a dit tout à l'heure, hein, tout, et vous allez vous sentir encore plus seul par comparaison avec ce à quoi vous n'avez plus accès et ce à quoi les autres ont accès. Alors, j'ai entendu des histoires de gens qui disaient, bon, je vais quitter tout ça, ça ressemble un peu à ce que Emmanuel disait, je vais m'installer quelque part, on n'a pas besoin d'y rester 20 ans, mais je vais apprendre à sentir les choses autrement, et à moi, à ce moment-là, de retourner. Donc, parfois, il y a une accentuation de l'expérience de solitude, qui va être donc curative, si vous voulez.
Comment expliquer, vous l'avez dit, on voit la personne qui veut rester seule comme misanthrope, comme se mettant dans une situation de refus de la collectivité, ou même du groupe d'amis. Elle ne vient pas avec nous, elle préfère rester seule. C'est donc qu'elle nous aime pas. Comment expliquer à ces gens qui pensent que c'est la preuve du désamour, la solitude ou du refus, que ce n'est pas le cas? Et alors, si ce n'est pas la preuve du refus, c'est la preuve de quoi, la solitude? Si vous venez pas à l'apéro que j'organise ce soir et que vous préférez rester seul, qu'est-ce que je devrais en tirer comme leçon?
Alors là, je me garderai bien de penser à votre place. Tout ça, si vous m'invitiez, je viendrai. Alors, non, mais blague à part. Ben voilà, une émission comme la vôtre, hein, une façon de d'ouvrir la diversité des expériences de solitude, de rendre légitime à aux gens qui écoutent, aux gens qui vivent des expériences de solitude, qu'ils ne sont pas dans la pathologie, qu'ils ne sont pas mauvais, qu'ils ne sont pas misanthropes ou qu'ils ne sont pas dépressifs, que c'est quelque chose qui leur arrive. Donc, ouvrir cette diversité est elle-même curative, si vous voulez, est elle-même un moyen d'apaiser ce qui est de l'ordre aussi du sentiment d'être pas comme les autres, d'être entre guillemets anormal, de pas être un bon camarade ou ce que vous voulez de ce type-là, et donc de s'octroyer la permission, la légitimité d'être différent, et ça aide aussi les gens à trouver cette différence légitime. Donc les deux s'y retrouvent.
Très bien. Eh bien, merci de ne pas être restée seule aujourd'hui et d'être venue dans un été à soi. Marie-Noëlle Scurmans,
merci
beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et demain, Sophie Vassudine.
Demain, nous parlerons de la retraite.
On remercie pour aujourd'hui Raphaël Vurlot, Bastien Testori, Jonathan Lemieux, Yannick Ozaman, Fanny Ossauer, Colline de Senarclan, Mediat Mani, Thierry Schwab et Nicolas Voss. Cette émission se réécoute si vous le souhaitez et se partage également www.rts.ch. Dans un instant, c'est Manuel Amoury qui n'est pas seule, elle, pas du tout même, en direct de Maz pour son émission Je veux du soleil.
Un été à soi avec Promotion Santé Suisse et SantéPsy.ch, unis pour promouvoir votre santé mentale.
Les infos, il est 14h.